Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 1er février 2018. Monique Kerouac au micro, aujourd'hui seule avec vous. En studio, bien sûr, mais je ne suis pas seule tout à fait puisque Mathieu m'accompagne à la régie. Et même, il participera à la lecture d'un article.
On me donne le micro un peu plus longtemps que d'habitude.
Exactement. Alors, brièvement, les sujets que nous avons. Un premier article, il est donc une entrevue avec une chercheuse montréalaise. Alors, attention, elle a 99 ans et elle est toujours très active. Je vous décrirai sa spécialisation tout à l'heure. Deuxième article, je vous parlerai de microchirurgie réussie de parties du corps comme le visage, le nez, les oreilles. Ensuite, les résultats d'une recherche sur des décrocheurs que l'on qualifie de discrets. Alors, peut-être que je pique votre curiosité.
Tout à fait.
On complétera cet article par deux technologies qui seront présentes à Pyeongchang. Là, je fais plaisir à Yvan parce qu'il aime beaucoup quand je prononce
Pyeongchang. Quand j'ai vu les sujets
desquels
vous alliez traiter, je me suis dit, j'espère qu'il nous écoute parce que vous allez le mentionner souvent ce nom-là aujourd'hui.
C'est ça. Et ensuite, pour un quatrième article, on parlera d'un autre chercheur dont on entend beaucoup le nom ces derniers temps, Joshua Bengio, et qui est spécialisé en intelligence artificielle. Et finalement, un dernier article en deux parties où l'on parlera des souvenirs et donc, encore une fois, de la mémoire. Alors, comme je vous disais, une chercheuse vraiment de très haut niveau qui a 99 ans et qui est encore active, c'est une pionnière des neurosciences et donc également de la mémoire vive. Alors, les propos ont été recueillis par Marine Corniou pour la revue Québec Science des mois de janvier-février 2018. Alors, Mathieu me posera les questions et je personnifierai Madame Brenda Milner.
Alors, votre travail auprès du patient HM rendu amnésique à la suite d'une intervention chirurgicale a été fondateur pour les neurosciences. Votre nom est cité dans toutes les publications en lien avec la mémoire. En quoi le cas de HM est-il si important?
Alors, il ne faut pas trop se focaliser sur ce patient-là. C'est vrai que je l'ai présenté au monde. Mais le travail fondateur, je l'ai fait ici, à l'Institut neurologique de Montréal, avec les malades du docteur Penfield. On se souvient que le docteur Penfield est un célèbre neurochirurgien qui a révolutionné la science du cerveau. C'est parce que j'avais étudié les troubles de la mémoire ici que j'ai été invitée à suivre le patient HM aux États-Unis. Sinon, pourquoi aurait-on proposé à une jeune femme canadienne, j'étais vraiment jeune à l'époque, de poursuivre ses recherches au Connecticut.
Deuxième question. À l'époque, peu de techniques permettaient d'étudier le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Alors, comment faisiez-vous?
Eh bien, pour étudier le cerveau, on devait souvent attendre la mort de nos sujets. Les études faites sur la mémoire étaient menées chez des gens âgés, ce qui rendait les choses difficiles car ils avaient toutes sortes d'autres problèmes. Ici, à l'Institut, ce qui était bien pour la recherche, c'est que les malades étaient jeunes. Ils venaient de subir des interventions au cerveau pour traiter l'épilepsie. Évidemment, on ne pensait pas que ces opérations entraîneraient des troubles de la mémoire. Autrement, on ne les aurait pas effectuées. D'ailleurs, l'étude de la mémoire n'était pas à la mode quand j'ai commencé. Il faut se resituer, je fais une parenthèse, ce n'est plus Madame Miller qui parle, mais elle a obtenu son doctorat en 1952, donc il y a quelques années de cela. D'ailleurs, l'étude de la mémoire n'était pas à la mode, comme je disais. Je travaillais sur la perception visuelle, un sujet de recherche très populaire. Mais les malades du docteur Penfield n'avaient pas de troubles visuels et ils se plaignaient de problèmes de la mémoire. Je les ai écoutés et je me suis intéressée à eux.
Troisième question. L'étude de ces patients vous a aussi permis de mieux définir le rôle de chaque hémisphère cérébral et de montrer qu'une région lésée pouvait être compensée par une autre.
Alors oui, en plus, j'ai eu l'occasion, il y a 50 ans, d'aller en Californie étudier les malades du docteur Roger Sperry. C'est un neuropsychologue américain qui a d'ailleurs été lauréat du prix Nobel de physiologie en 1981 pour ses travaux sur le fonctionnement des deux hémisphères cérébraux. Alors, il collaborait avec un chirurgien qui traitait l'épilepsie en déconnectant les deux hémisphères pour éviter la propagation des crises. J'étudiais le rôle de l'hémisphère droit chez les animaux et Roger Sperry m'a dit « Si vous voulez vraiment voir ce que fait l'hémisphère droit, prenez l'avion et venez voir mes patients. » C'est fascinant. Dans un cerveau typique, l'hémisphère gauche est vraiment dominant pour le langage et l'hémisphère droit est le siège de l'intelligence spatiale. Aujourd'hui, je m'intéresse toujours à la mémoire, mais aussi et surtout à l'interaction entre les deux hémisphères.
Prochaine question. Les cas comme HM et les autres patients amnésiques sont-ils toujours aussi importants en neurosciences?
C'est une très bonne question.
Je vous remercie. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je rappelle que c'est des propos recueillis par Marine Corniou.
Oui. Alors, et elle n'a pas dit que c'était une très bonne question. Ces cas restent toujours importants. Mais maintenant, on utilise d'autres techniques, en particulier l'imagerie fonctionnelle. Ce qu'on veut vraiment comprendre, en fait, ce n'est pas le fonctionnement du cerveau lésé, c'est celui du cerveau normal. Avec le scanner, on peut voir le cerveau normal en action. On n'a plus besoin d'attendre l'ablation chirurgicale d'une région pour comprendre à quoi il sert.
Vous avez étudié en mathématiques à Cambridge, puis en psychologie à la fin des années 30. On a dû souvent vous poser la question, mais ce n'était pas banal pour une femme de suivre ce chemin à cette époque. Étiez-vous particulièrement tenace?
J'avais une passion. Et j'étais très ambitieuse. Une fois, il y a longtemps, on m'a conseillé, lors d'une entrevue, de ne pas dire que j'étais ambitieuse, car c'était mal vu. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas le choix. J'ai dû m'entêter pour obtenir des bourses et des financements. Heureusement, j'ai toujours eu cet esprit de concurrence. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, surtout chez les femmes, mais même si ça change quand même un peu aujourd'hui.
Vous avez 99 ans et votre mémoire est intacte, mais diriez-vous que vos souvenirs sont différents avec le temps?
Les nouveaux apprentissages sont plus difficiles, mais c'est vrai même à l'âge de 60 ans ou plus tôt. C'est rassurant. Par exemple, si vous me donnez une liste de mots à retenir, je ne réussirai pas bien. Par contre, mes souvenirs personnels restent précis et les souvenirs les plus anciens prennent un peu plus de force. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus fidèles. Est-ce qu'ils correspondent à la réalité? Ça, personne ne le sait. En tout cas, j'en ai ma propre version, celle que je préfère. Alors, c'était donc des propos retenus par Marine Corniou pour la revue Québec Science de janvier-février 2018. Alors, un sujet un peu différent, mais toujours quand même dans des hauts niveaux de recherche. Le titre de l'article « Nez arraché, oreilles sectionnées, visage défiguré », ça paraît très négatif, mais des reconstructions réussies grâce à la microchirurgie. C'est donc un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 29 novembre 2017. Alors, peu d'études traitent de réimplantation par microchirurgie de parties amputées au visage ou à la tête, qui existent pourtant depuis 50 ans. Or, ces opérations délicates sont très largement couronnées de succès pour les patients. C'est ce qu'a révélé une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Alain Danino, professeur au département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, dans une revue de la littérature publiée récemment dans la revue Microsurgery. Vous avez peut-être écouté les nouvelles ce matin et on a entendu le professeur Danino relater un autre succès de son équipe ce matin. Alors, il y a un grand nombre d'études sur la chirurgie de réimplantation de membres inférieurs ou supérieurs sectionnés, mais il y en a beaucoup moins qui font état des prouesses de microchirurgie en matière de réimplantation urgente de parties amputées à la tête ou au visage, explique le docteur Danino. Et nous avons cherché à savoir quel est le taux de succès de cette spécialisation. Son équipe et lui ont recensé 113 études menées spécifiquement sur des interventions urgentes de réimplantation de parties du corps par microchirurgie crânio-faciale effectuées sur 208 patients à la suite de traumatismes causés principalement par des morsures de chiens ou d'autres animaux, ou même par des humains, des accidents de travail, par exemple des chevelures qui sont prises dans des machines industrielles, des accidents de la route ou des coupures diverses. En tout, ces études rapportaient des microchirurgies sur les parties du corps suivantes. 90 cas de cuir chevelu, 56 cas pour les oreilles, 34 pour les lèvres, 26 pour le nez, un sourcil, et un visage, j'allais dire, et une souris verte.
C'est drôle, moi aussi, j'ai ça dans la tête.
Dans chacun de ces cas, les chirurgiens ont eu à greffer ou à réparer des vaisseaux sanguins et des nerfs très abîmés et dont les lésions étaient invisibles à l'œil nu. Il s'agit d'opérations où le chirurgien rattache, en regardant à travers un microscope, des vaisseaux sanguins avec des sutures dont le diamètre est souvent inférieur à 1 mm,
wow.
Soit plus petit que la largeur d'un cheveu. Vous imaginez? Il y a de nombreux cas où, avant même d'entrer au bloc opératoire, les chirurgiens constataient que les fragments étaient trop abîmés pour être remis en place. Mais l'analyse indique que lorsque les patients étaient admis en salle d'opération, les greffes ont permis un rétablissement complet dans 72 % des cas. Un rétablissement partiel a aussi été observé dans 20 % des cas. D'après le chirurgien, qui est chef du service de plastie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, le taux de succès de ces interventions d'urgence, qui exigent une revascularisation, permet aux patients de guérir rapidement et réduit le nombre de chirurgies reconstructives ultérieures. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que la revascularisation? C'est l'opération de chirurgie qui permet de restaurer la circulation du sang au sein d'un ou plusieurs organes du corps à la suite d'une interruption totale ou partielle. Dans la discussion concluant leur revue de la littérature, le docteur Danino et ses collègues mentionnent à quel point le succès d'une réimplantation repose sur la réduction du délai entre le moment où l'accident causant le traumatisme survient et l'arrivée dans la salle d'opération, notamment par un transport et un triage rapide des patients. La centralisation des cas en un lieu où sont regroupées toutes les ressources destinées à ce genre d'opération, comme le Centre d'expertise en réimplantation du CHUM, favorise les chances de réussite des réimplantations, affirme Alain Danino. Initialement créé pour traiter les amputations de doigts, des mains, de pieds, Le Centre d'expertise en réimplantation du CHUM soigne annuellement quelques 150 personnes ayant subi des amputations en tout genre. Ce centre couvre l'ensemble du territoire québécois et traite plusieurs types d'amputations en urgence, de sorte qu'il est désormais un modèle d'organisation dans le monde. Je pense que nous devons en être fiers. C'était donc un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM du 29 novembre 2017.
Je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La 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 la. Mon papa me disait souvent, tu ne peux pas être à deux places en même temps. Mais contre toute logique, je défie les lois de la physique. J'apparais simultanément dans plusieurs lieux et plusieurs événements, comme un homme omniprésent. De tout bord, de tout côté, parfaitement éparpillé.
Omniprésent, Damien Robitaille.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors maintenant, je vous parle de l'une des 10 découvertes marquantes de l'année selon la revue Québec Science de janvier-février 2018. C'est donc un article de Martine Letarte et il s'intitule, cet article, « Les décrocheurs discrets ». Alors, le décrochage est l'aboutissement d'un parcours scolaire difficile. C'est l'explication classique. Or, plusieurs décrocheurs présentent un dossier scolaire sans histoire. On les appelle d'ailleurs décrocheurs discrets, d'où le titre de l'article. À quoi peut-on alors attribuer leur abandon? Et si c'était le fait d'une crise, d'un stress récent, comme un conflit familial, un problème de santé ou de l'intimidation. C'est l'hypothèse de Véronique Dupéré, qui est professeure et chercheure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, et de son conjoint, Éric Dion, du département d'éducation et formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal. Les adolescents sont extrêmement sensibles aux stresseurs, notamment dans leurs relations sociales, explique Véronique Dupéré. Cela les rend susceptibles de prendre des décisions qui semblent régler le problème sur le moment, mais qui ont des conséquences négatives à long terme. Pour creuser les causes du décrochage, les chercheurs ont réalisé une étude dans 12 écoles secondaires à Montréal et dans ses banlieues, où le taux de décrochage est particulièrement élevé. Ils ont d'abord fait remplir un questionnaire à plus de 6500 jeunes de 14 ans et plus en début d'année scolaire pour les classer selon leur niveau de risque de décrochage. Puis, en cours d'année, chaque fois qu'un élève abandonnait, les chercheurs étaient avisés et tentaient de le rejoindre pour l'interviewer. C'était important de faire les entrevues à chaud pour que tous les récents événements soient frais dans leur mémoire, indique Éric Dion. Nous avons posé des questions de façon systématique sur des sujets précis, comme leur santé et leurs amis. Les chercheurs contactaient ensuite un élève au profil semblable à celui du décrocheur, mais qui avait persévéré, et l'interviewait aussi. Au total, près de 550 entrevues ont été réalisées, donc sur les 1400 qui avaient rempli le formulaire. C'est quand même beaucoup, hein? Le couple de chercheurs avait vu juste. Environ 40 % des jeunes qui ont décroché avaient vécu un événement stressant important dans les 3 mois précédant leur départ de l'école. Dans près de 3 cas sur 4, ces stresseurs étaient liés à leur apprentissage scolaire. Ces résultats ont été publiés dans la revue Child Development. Généralement, les deux jeunes avaient été exposés à des situations stressantes similaires pendant l'année scolaire. Mais chez les décrocheurs, on voyait un changement important dans leur trajectoire au cours des 3 mois précédant le décrochage. Les chercheurs ne remettent pas en question que le décrochage puisse être lié à des difficultés scolaires, mais ils insistent sur l'importance d'agir sur d'autres facteurs en cause. Il faut trouver des moyens de détecter rapidement des problèmes ponctuels, liés à l'école ou pas, qui surviennent dans la vie du jeune et intervenir le temps que la crise passe, affirme Éric Dion. Ces investissements stratégiques pourraient éviter plusieurs cas de décrochage, estime Véronique Dupéré. Leur appel a été entendu. En octobre dernier, le Conseil supérieur de l'éducation attirait l'attention sur cette recherche dans une réflexion envoyée au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport sur le développement d'une école plus inclusive. Voilà une étude dont les retombées ne se limiteront pas au milieu de la recherche. Heureusement, car avec son taux de décrochage moyen de près de 15 % qui monte à 20 % pour les garçons dans le réseau public,
c'est beaucoup,
le Québec en a vraiment besoin. Ont aussi participé à cette découverte Isabelle Archambault, Michel Janos de l'Université de Montréal et des chercheurs de l'Université Tufts et de l'Université du Texas à Houston. C'était donc un article de Martine Letâtre pour Le Québec Science de janvier-février 2018. Alors, tel qu'annoncé, nous nous dirigeons vers Pyeongchang. Les Jeux commencent dans 7 ou 8 jours.
Exact.
Alors, la technologie qui est mise en place là-bas. Alors, par rapport aux patineurs, on utilise depuis longtemps des capteurs électroniques en milieu industriel pour mesurer la vibration d'une machine, par exemple. Mais dans le domaine sportif, et plus particulièrement chez les patineurs de vitesse, leur utilisation est encore toute récente. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Pendant l'entraînement, on place sur le corps de l'athlète un gyromètre qui capte les mouvements. L'instrument peut ainsi décomposer chaque impulsion et identifier le moment où le patineur accélère ou ralentit. De quoi faire une analyse personnalisée de chaque course. Ces mesures nous permettent de savoir comment l'athlète génère sa puissance et d'adapter son entraînement en fonction de ses résultats. Et on espère battre des records. Deuxième élément technique, alors cette fois en relation avec le snowboard. Ce ne sera peut-être pas perceptible en les voyant glisser sur les pentes, mais la combinaison des athlètes de snowboard est maintenant 4 fois plus légère et imperméable que celle portée lors des Jeux olympiques de Sochi. La différence tient au tissu E-Vent qui ressemble au Gore-Tex, mais qui est beaucoup plus performant. Fabriqué au Japon, il est très solide, confortable et très respirant. Alors, en réalisant des tests par ordinateur, on constate que le tissu crée moins de friction dans l'air et permet de se déplacer plus rapidement. Encore des records à battre. Alors, avant la pause, une petite capsule linguistique. Peut-on charger quelque chose à quelqu'un?
Charger quelque chose à quelqu'un?
Oui.
Je vais dire non, pour le plaisir de ne pas vous...
Alors, tu as partiellement raison. Alors, il est incorrect, en effet, de dire qu'on charge une somme à quelqu'un pour un produit ou un service quelconque. En ce sens, le verbe charger est considéré comme un anglicisme. En français, on peut charger un camion, on peut charger quelqu'un de faire quelque chose, mais on ne peut pas charger une somme à quelqu'un. Au lieu de dire, par exemple, « mon plombier charge 60 $», il faudra dire que « mon plombier demande 60 $ ». Ou on pourra aussi, on évitera de dire que « je ne vous chargerai rien ». « Ce sera gratuit pour vous », dira-t-on. Selon le contexte, on peut également remplacer l'anglicisme « charger » par « exiger », « facturer », « prendre », « faire payer » ou « réclamer ».
Ah bon, mais merci.
Alors, Voix du service magazine se poursuit après la pause et la chanson. On parlera d'un chercheur très populaire et du dédale de nos souvenirs. On vous retrouve donc dans quelques minutes.
Tu les prends. mon cœur. Chanter des chansons pour trouver le courage d'aller au dépanneur, ramener des bouteilles vides, faire un peu de ménage avant que ma lionne revienne de voyage.
La Maison Sauvage, une chanson de Philippe B. que l'on retrouve sur son album Ornithologie la nuit.
Merci beaucoup Mathieu. Alors, un deuxième chercheur dont je voulais vous parler. Alors, c'est un article de Maxime Bilodeau, encore du Québec Sciences de janvier-février 2018. C'est, je pense, le dernier que je vais vous présenter après la mémoire, là. Donc, cet article s'intitule « Monsieur Intelligence Artificielle ». Alors, nous devons plusieurs technologies qui peuplent notre quotidien aux travaux du chercheur montréalais Yoshua Bengio. Alors, retenez bien ce nom, si vous ne l'avez pas déjà entendu.
En effet, oui.
Vous allez l'entendre, je pense, à répétition. Alors, il y a un peu de lui dans le système de commande vocale Siri, développé par Apple. Les multiples outils de recherche, de traduction et de marketing de Google, c'est aussi un peu lui. Cette formidable capacité qu'a Facebook de vous proposer du contenu qui correspond à vos intérêts, eh bien, c'est encore lui. Bien qu'il ne travaille pas à proprement parler pour l'une ou l'autre de ces entreprises, elles aimeraient bien, remarquez, le recruter, Yoshua Bengio a contribué par ses travaux sur l'intelligence artificielle, que l'on appelle aussi IA, et l'apprentissage profond, les a propulsés au rang de géants de la techno. L'approche du chercheur montréalais de 53 ans est basée sur les réseaux neuronaux artificiels, une architecture informatique qui est inspirée des neurones du cerveau humain. C'est cette technologie d'apprentissage qui a propulsé l'IA dans d'innombrables domaines. Alors, M. Bengio nous dit « Mes recherches consistent à développer des algorithmes dont les équations mathématiques sont rendues publiques. Donc, les entreprises privées les transforment ensuite en applications concrètes utilisables par tous. » Rappelons que M. Bengio est professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début du millénaire, Yoshua Bengio était un paria. Alors que le projet de développer des machines intelligentes avait été abandonné, l'IA était quasiment devenue tabou. On considérait que c'était de la science-fiction, qu'on ne pouvait pas réellement révolutionner la société avec quelque chose qui approchait l'intelligence humaine, se souvient-il. Avec des collègues, il garde, on en est très heureux aujourd'hui, la foi, convaincu du réalisme du projet qui renaîtra de ses cendres en 2010. Ce n'était pas facile, il fallait nager contre le courant et les effets de mode dont la science est parfois victime. Sa persévérance face à l'adversité, de même que sa volonté affirmée de faire de Montréal la Silicon Valley de l'IA, ont valu à la sommité, mondial, faut-il le dire, le prix Marie-Victorin, qui est décerné par le gouvernement du Québec lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Le prix, nommé en l'honneur du célèbre botaniste québécois, qui, je vous le rappelle, est un Kirouac,
c'est vrai.
Conrad Kirouac, donc de la même famille que votre humble animatrice ce matin, couronne l'ensemble de la carrière et de l'œuvre d'un scientifique de la province ayant travaillé dans un secteur autre que le domaine biomédical. Le Québec m'a beaucoup donné et cru en moi. Il prend en plus la peine de m'honorer, lance celui qui est arrivé à Montréal en 1977 à l'âge de 12 ans, avec ses parents d'origine marocaine, auparavant établis à Montréal. L'obtention de cette distinction, l'une des plus prestigieuses au Québec, ne signifie cependant pas que l'apport de Joshua Bengio à la société est sur le point de cesser. Bien au contraire, il est essentiel que les chercheurs considèrent l'impact global de leurs travaux. À plus ou moins long terme, l'IA posera des enjeux d'inégalités sociales, éthiques, économiques et démocratiques. Il faut commencer à en discuter et à en débattre maintenant, conclut celui qui a récemment participé au Forum sur le développement social responsable de l'IA de Montréal. Je dois ajouter qu'il a aussi été nommé le scientifique de
Tout
l'année
fait, oui.
par Radio-Canada. On a appris ça ce week-end. Et je lirai le témoignage de Sophie-André Blondin, qui est l'animatrice de l'émission Les Années-Lumière, qui justement recevait ce célèbre chercheur dimanche dernier, je crois.
Oui.
Alors elle nous dit, grâce à Joshua Bengio, le génie québécois s'est distingué au sein des géants mondiaux de l'informatique et du web. Il a contribué à jeter les bases de perspectives exaltantes à ce chapitre pour Montréal et le Québec, sans oublier l'imposante cohorte de compétences qu'il ne cesse de former au fil des ans, parce qu'il est bien sûr toujours professeur. Alors, je vous rappelle un peu tout ce qu'il peut faire, ce professeur, parallèlement à ses fonctions à l'Université de Montréal, donc au département d'informatique et de recherche opérationnelle. Il est directeur scientifique de l'Institut de valorisation des données. Il est co-directeur du programme Learning in Machines and Brains de l'Institut canadien de recherche avancée. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les algorithmes d'apprentissage statistique. Alors voilà, c'était le profil de ce magnifique chercheur, Joshua Bengio. Alors, on vous revient sur le sujet de la mémoire. C'est un article de Marine Corniou, qui avait donc fait l'entrevue avec Mme Brenda Melner, et qui poursuit avec un article qui s'intitule « Dans le dédale de nos souvenirs ». Je veux savoir pourquoi je me souviens de tout. Je pense constamment au passé. C'est comme un film qui ne s'arrête jamais. La plupart des gens pensent que c'est un don, mais pour moi, c'est un fardeau. Écrit Jill Price, une Américaine alors âgée de 34 ans, en juin 2000, au neurobiologiste de l'Université de Californie à Irvine, UC. Son courriel est un véritable appel à l'aide. Depuis ses 11 ans, Jill se souvient de tous les jours de sa vie. Ce qu'elle faisait le 4 octobre 1982, ce qu'elle portait le 22 mai 1995, le jour où Bing Crosby est mort, la première fois qu'elle a entendu telle chanson ou rencontré telle personne. Le tout sans effort. Sa mémoire est continuelle, incontrôlable, et automatique, écriront les chercheurs en 2006 dans leur article décrivant ce cas stupéfiant. Depuis, nous avons identifié une cinquantaine de cas similaires. Ils se souviennent des événements de leur vie personnelle beaucoup mieux que nous, mais ils ne sont pas meilleurs que la moyenne en histoire, par exemple, ni aux tests qui exigent de retenir une liste de mots, précise Craig Stark, qui dirige les recherches à Lucy sur ces personnes dotées de mémoire autobiographique hautement supérieure, ou HSAM. Le rapport à la science est précieux. En sondant la matière grise de ces hommes et femmes calendriers, le chercheur espère décoder les mécanismes du souvenir en général. Le cerveau HSAM stocke-t-il plus de souvenirs ou est-il simplement meilleur pour aller chercher l'information? Autrement dit, le passé de chacun s'enregistre-t-il ainsi automatiquement en quasi-totalité? Est-ce notre capacité à réactiver les détails qui varie? Ces questions, Craig Stark n'est pas le seul à les poser. La quête de la trace mnésique ou engramme, c'est-à-dire cette empreinte biologique laissée par nos souvenirs, anime les scientifiques depuis des siècles. Même Aristote s'est penché sur le sujet, suggérant que le siège de la mémoire était dans le cœur, tant certains souvenirs ravivent les émotions. La question a ensuite longtemps été abandonnée aux philosophes, puis aux psychologues. Mais l'essor des neurosciences a permis depuis quelques décennies d'y voir plus clair dans la façon dont nos souvenirs sont construits, stockés et bien sûr réanimés. Une chose est désormais certaine, la mémoire n'est pas un enregistrement passif de nos expériences. Elle est au contraire un processus extrêmement dynamique, soutenu par un remaniement constant des neurones. La flexibilité de notre système mémoriel est incroyable. C'est ce qui en fait son utilité, car on peut se rappeler un même événement sous de multiples facettes, avec précision ou de façon générale. Si l'on se souvenait de tous les détails tout le temps, ce serait carrément pénible. Si le cerveau de Jill n'a pas encore livré ses secrets, d'autres cas avant elle ont permis à l'autre extrême du spectre, de démystifier le profil de la mémoire. Le plus célèbre, Henry Molaison, ou HM.
Voilà le fameux HM.
Voilà, c'est ça. Devenu amnésique à 27 ans, après l'ablation d'une partie de son cerveau, une opération de dernier recours pour soigner une épilepsie sévère. En 1953, Brenda Milner, jeune neuropsychologue de l'Institut neurologique de Montréal, était appelée à la rescousse pour observer ce patient dont on dit aujourd'hui qu'il est le cas le plus étudié de l'histoire de la médecine. C'est quand même pas banal. Et pour cause, débarrassé de son épilepsie, le jeune homme est en revanche incapable de se souvenir d'une nouvelle information plus de 30 secondes. Cela étant, HM, se rappelle de façon floue les événements survenus dans son enfance et il est capable d'acquérir de nouvelles capacités motrices, comme des techniques de dessin, mais il ne se souvient pas de s'être entraîné pour y parvenir. Ce qui permet à la neuropsychologue de faire deux constats majeurs qui poseront les jalons des neurosciences. D'une part, il existe différents types de mémoire reposant sur plusieurs zones cérébrales et pouvant fonctionner de façon plus ou moins autonome. D'une part, une petite région appelée hippocampe, qui a justement été retirée chez le jeune homme, est cruciale pour la création de nouveaux souvenirs. Depuis, on distingue par exemple la mémoire procédurale, grâce à laquelle on sait faire du vélo ou jouer du piano, de la mémoire sémantique, qui concerne notre savoir général, les jours de la semaine, la capitale de la France, notre nom, notre adresse, etc. Mais la mémoire dont les gens parlent le plus, c'est la mémoire épisodique, qui nous permet de nous souvenir de notre premier baiser, de notre remise de diplôme ou de ce qu'on a mangé hier au dîner. C'est elle qui est grandement dépendante de l'hippocampe, souligne Sidney Sheldon. C'était un point, excusez-moi. Depuis les travaux précurseurs de Milner, l'hippocampe est l'objet de toutes les attentions de la part des spécialistes de la mémoire. Cette structure bicorne qui est nichée au centre du cerveau est conservée est considéré comme le chef d'orchestre de nos souvenirs, l'organe de triage. Pour se rappeler des détails d'un événement, on a besoin de l'hippocampe. Alors, on va prendre une petite pause et je vous reviens avec la suite des choses. Alors, je poursuis. Mais si l'hippocampe est une sorte de disque dur, sous quelle forme y sont codées les traces de notre passé? Contre toute attente, c'est un mollusque marin assez insignifiant, sur le plan cognitif du moins, qui a livré le premier indice au début des années 1960. L'Américain Eric Kendall titille alors des limaces de mer en leur appliquant des décharges électriques, ce qui les force à rétracter leurs branchies de plus en plus efficacement. Il observe que ce réflexe, que l'on peut assimiler à un apprentissage, passe par le renforcement de certaines synapses, qui sont en fait des points de connexion entre les neurones. Autrement dit, le fait de stimuler un neurone à répétition augmente les chances que le neurone voisin s'allume de concert, et ce, pendant des semaines. Pour former un souvenir, il faut parfois quelques répétitions. Pensez à vos cours de biologie ou à l'apprentissage laborieux d'un poème. Dans d'autres cas, comme lors d'un premier baiser, il suffit d'une fois pour que le lieu, les sensations, les couleurs, leur odeur associée à cet événement s'inscrivent en vous. Sous un angle moins romantique, le baiser comme le poème ont déclenché l'activation d'un vaste circuit de neurones dans le cerveau. Ceux-ci ont pendant quelques millisecondes vibré à l'unisson, suivant une musicalité, fréquence, rythme, qui constitue la signature de ce souvenir bien précis. Chaque fois que ce baiser vous revient à l'esprit, ce même groupe de neurones se rallume comme un seul, car le chemin allant de l'un à l'autre s'est renforcé. C'est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme. Chaque souvenir correspond ainsi à une configuration particulière de quelques milliers de neurones travaillant ensemble, convergeant vers l'hippocampe. Les détails, comme le lieu, les émotions, les odeurs, sont inscrits un peu partout dans différentes aires cérébrales, mais l'hippocampe compile tout ça pour reconstituer une image mentale. Pour autant, à moins que vous ne soyez atteint de HSAM, vous ne vous souviendrez pas éternellement de votre banal dîner d'hier. Le premier baiser, lui, s'oublie moins facilement. Plusieurs facteurs facilitent la consolidation de la mémoire à long terme. L'attention, la motivation et bien sûr la charge émotionnelle, positive ou non. Ce n'est pas pour rien qu'on se souvient tous, ou presque, de ce qu'on faisait au moment de l'attentat du 11 septembre 2001. Si cette théorie du réseau neuronal codant une expérience donnée a le vent en poupe depuis les années 1950, ce n'est que tout récemment qu'on a pu en apporter la preuve concrète en visualisant pour de bon un anagramme, c'est-à-dire une population de neurones travaillant ensemble. On a même réussi à le manipuler. Une prouesse que l'on doit à l'optogénétique, une technique révolutionnaire inventée en 2005 qui combine l'optique et le génie génétique. Le principe, eh bien, c'est d'utiliser une lumière pour activer ou inhiber les neurones à volonté grâce à des protéines photosensibles que l'on fait produire artificiellement aux cellules pour servir d'interrupteur. Bien qu'elle semble sortie tout droit d'un film de science-fiction, l'optogénétique est un outil rêvé pour lever le voile sur les grands mystères de la mémoire comme le lieu de stockage des souvenirs de longue date. Sur ce point, l'étude du cas de HM a révélé il y a longtemps que l'hippocampe n'est pas indispensable pour se remémorer, les choses les plus anciennes. À long terme, certains pensent que la trace du souvenir est transférée vers le cortex. Le cortex, c'est la couche externe du cerveau. Toutefois, sans l'hippocampe, les contours des souvenirs sont plus flous. On ne se souvient plus de la couleur des yeux de la personne du premier baiser, par exemple, ou les détails du lieu où il a été donné. Mais la théorie du transfert des souvenirs en périphérie du cerveau est controversée. Là où les choses se compliquent, c'est que l'on découvre que l'encodage des souvenirs n'implique pas que l'hippocampe, mais un dialogue, une coactivation de l'hippocampe et du cortex. En 2016, Craig Stark a comparé la mémoire d'individus HSAM à celle de témoins au sujet d'événements survenus une semaine, un mois, un an ou 10 ans auparavant. Son constat, les HSAM oublient très, très lentement. Or, un cerveau normal a besoin d'oublier. De plus en plus d'études remarquent que le cerveau dépense peut-être autant d'énergie à créer de nouveaux souvenirs qu'à effacer, c'est quand même incroyable, ça me fait bafouiller, les anciens devenus inutiles. Une information est codée à la fois par le renforcement de certains synapses, ces liens entre les neurones, et par l'affaiblissement des chemins neuronaux qui ne sont pas pertinents. Si on ne faisait que renforcer des synapses, le cerveau grossirait toute notre vie. On aurait tous de grosses têtes qui ne tiendraient pas sur nos coups. Alors ne dit-on pas qu'il faut justement que la mémoire soit une faculté qui oublie? Alors, c'était un article de Martine Corniaud pour le Québec Science de janvier-février 2018. Alors, quelques brèves. Une première, qui traite de technologie. Une machine qui détecte la dépression. Alors, grâce au machine learning, une intelligence artificielle a été capable de diagnostiquer efficacement la dépression chez des personnes à partir de leurs photos sur le réseau social Instagram. Ces dernières sont plus sombres et montrent moins le visage. Le taux de détection avec la machine, a atteint 70% contre 42% avec un médecin généraliste. N'est-ce pas incroyable? Voilà que la machine déclasse le médecin. Alors, en lien maintenant avec la santé, des autotests pour dépister le sida. Alors, près de 5 millions d'autotests de dépistage du sida vont être distribués en Afrique australe. Ils permettent de dépister une infection au VIH en 20 minutes, et ce par un simple prélèvement de salive. 500 000 kits ont déjà été distribués entre 2015 et 2017, avec des résultats très prometteurs. Alors vraiment, la science ne s'arrête devant rien. Une autre petite brève, cette fois-ci sur qui traite de la plateforme de Glass-Larsen C. Alors, 5800 km², c'est la superficie de l'iceberg qui s'est détaché de la plateforme de Glass-Larsen C en Antarctique entre le 10 et le 12 juillet. Ainsi, la plateforme a perdu 12% de sa superficie.
C'est énorme.
C'est énorme. Alors, chers amis, je pense qu'il est temps de vous dire que ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère attentive et que vous ne vous êtes pas lassés de mes hésitations et de ma voix. Merci à Mathieu de sa précieuse collaboration. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, et ce, en compagnie, bien sûr, de Marie et Yvan et moi-même. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et au plaisir de vous revoir, de vous entendre, de m'entendre.